nous sommes en compagnie d'Éric Chassefère et on parle de ce retour à Vénus. Évidemment, on regarde toujours l'histoire et c'est vrai que l'histoire des sondes soviétiques Venera, ce qu'on a appelé l'armada Venera, est assez extraordinaire. De nombreuses sondes, en tout 16, hein, entre 1961 et 1983, ont été lancées à l'assaut de Vénus, hein, même s'il faudra attendre Venera 4, donc 1967, pour toucher au but et avoir des premières données. On retiendra bien évidemment les sondes qui vont se poser à la surface de Vénus. Et là, c'est le 15 décembre 1970 avec Venera 7, hein, qui est le premier engin à atterrir sur une autre planète. Et puis surtout, Venera 13, qui va résister 2 heures. Alors, on se dit 2 heures, c'est rien. C'est vraiment rien. Mais on a aussi beaucoup de mal à se rendre compte de, des conditions épouvantables que sont celles rencontrées par une sonde qui se pose sur le sol de Vénus. Les soviétiques, à l'époque, on parlait d'une espèce de sous-marin de l'enfer, hein, capable de résister à des pressions absolument épouvantables, une chaleur extraordinaire. Vous le comprenez, 2 heures à la surface de Vénus, c'est un exploit ?
Oui, c'est un exploit. La première condition très défavorable est la pression. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on se pose à la surface de Vénus, c'est à peu près comme si on posait un bathyscaphe ou un sous-marin sur un fond océanique à 1 kilomètre de profondeur. Donc l'environnement de Vénus est plus un environnement de type océanique atmosphérique. D'ailleurs, le CO2 atmosphérique est super critique. Ce n'est ni un fluide ni un gaz. On est au-delà du point critique. Donc on est dans un environnement qui n'est pas un environnement liquide, mais pas un environnement gazeux non plus. Donc très forte pression. Autrement dit, se poser en soi n'est pas vraiment un problème. Il est plus facile de se poser sur Vénus que sur Mars, parce que là, on n'a pas besoin de parachute. Enfin, la résistance est telle qu'effectivement, l'atterrissage se fait en douceur. Alors ça c'est une chose, alors il faut pouvoir résister aux pressions, et puis bien sûr le paramètre le plus handicapant est certainement la température, qui est extrême, de presque 500 degrés Celsius, entièrement due à l'effet de serre, dû au CO2 et au dioxyde de soufre. Effectivement, dans ces conditions, il est très difficile de résister. Pourquoi ? Parce que soit la capsule est isolée d'un point de vue thermique. Alors on a beaucoup réfléchi à tout ça, la façon de l'isoler, on peut introduire des matériaux à changement de phase qui vont absorber la chaleur, mais ceci a une limite bien entendu, et en fait il est très difficile de survivre plus que quelques heures. D'isoler thermiquement à 500 degrés Celsius, c'est plus que dans votre four, hein. Chez vous, quand vous faites cuire un rôti, bon, 500 degrés, c'est énorme, c'est une température très élevée. Autrement dit, donc, d'un point de vue, un refroidissement passif simplement par isolation thermique est impossible si on veut, disons, obtenir des durées plus importantes, par exemple pour faire de la sismologie. Sinon, la solution est évidemment d'un refroidissement actif par des machines cryogéniques de type Stirling. Mais dans ce cas-là, le problème est l'énergie. Ces machines, il faut les alimenter. Et à la surface de Vénus, on n'a quasiment plus d'énergie solaire, puisqu'en fait, il fait très sombre sur Vénus. Hein, voilà. Donc il faut une source d'énergie nucléaire.
Énergie thermique, ça va. c'est pas la chaleur qui vend.
Non, parce que d'un point de vue thermodynamique, cette énergie, il faut la transformer en travail et le rendement est très faible. Donc en fait, il faut un générateur d'énergie qui permette effectivement d'alimenter une turbine. Faire tourner, disons, une machine, un frigo. Hein.
Alors, il y a beaucoup de projets aujourd'hui de retour sur Vénus. Donc, on peut parler effectivement de Venera D, qui est la mission russe aujourd'hui, qui est imaginée peut-être avec des coopérations d'ailleurs en France ou en Europe.
Oui, tout à fait. Hein. Oui, tout à fait. Cette mission Venera D, donc, est une mission très ambitieuse avec une sonde d'atterrissage, un ou deux ballons, un orbiteur de Vénus. Toutes ces plateformes opérant simultanément, et nos amis russes envisagent cette mission pour, disons, avant 2020, 2017, 2018, cette mission extrêmement ambitieuse, et elle est effectivement menée en coopération, notamment avec les scientifiques français, dans la mesure où on pourrait imaginer effectivement que cette mission soit que la mission Venera D et que les projets de ballons européens fusionnent en un seul projet.
Parce qu'il y a une mission européenne dont vous êtes chargé d'ailleurs.
Oui, enfin
de l'étude, hein, en tout
voilà,
cas.
Voilà, exactement. Donc il y a une mission européenne que nous avons proposée il y a 2 ans à l'ESA, donc pour un vol d'ici une dizaine d'années. Et à l'époque, cette mission a été proposée en très forte coopération avec les Russes. puisque les Russes fournissaient un certain nombre d'éléments, dont le lanceur, dont la capsule d'entrée, etc. Mmh. Et donc, nous avons noué, renoué, disons, des coopérations à cette occasion, qui est des coopérations anciennes, qui existaient déjà dans les années 80, lors de la mission, avant la mission Vega. Nous n'avons pas été sélectionnés. Hein, entre-temps, bon, l'agence russe a redéfini son programme et a, placé cette mission Venerade en forte priorité dans un calendrier qui n'est plus compatible d'un calendrier, du calendrier d'une mission ESA, sachant qu'une mission ESA vers Vénus ne peut pas se faire avant 2021-2022.
Alors, vous aviez mis en avant les ballons.
On avait mis en avant les ballons, absolument, sachant que nous proposions un ballon qui, lui, était européen, et que donc la participation russe consistait essentiellement dans une sonde de descente donc, qui était déployée en même temps que le ballon, qui fournissait donc l'échantillonnage vertical. Et dans ce montage-là, c'est l'ESA qui fournissait l'orbiteur. Les Russes fournissaient également le bouclier d'entrée de la sonde ballon, parce qu'il faut la faire entrer dans l'atmosphère. Voilà, donc c'était effectivement, le ballon était déjà au centre de cette mission. Cette proposition n'a pas été un succès. Et maintenant, donc, nous proposons, les Russes de leur côté proposent Venerade, et nous proposons une mission ballon avec des coopérations dont nous verrons comment elles pourront évoluer.
Alors, pour être complet, on doit effectivement rappeler ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une mission japonaise qui partira en principe en mai 2010 et elle devrait arriver en décembre, fin d'année 2010. Elle, c'est de l'observation, il n'y a pas de descente, il n'y a pas de ballon.
Non, c'est de l'observation en orbite, sur une orbite équatoriale. Ouais. Donc c'est plus c'est une sorte de météosat, si vous voulez, de météosat de Vénus qui va faire des observations météorologiques, disons, de la haute atmosphère et de la surface de la couche nuageuse.
Et pour être complet, on rajoutera la mission américaine, projet de mission américaine, baptisé SAGE, pour surface en atmosphère géochimical explorer. Donc là aussi, ni orbiteur, ni ballon pressurisé, mais uniquement un atterrisseur capable, disent-ils, de survivre 3 heures à la surface de Vénus avec un objectif d'arrivée pour 2017.
Oui, c'est ça. SAGE n'est pas encore sélectionné. Il a été présélectionné avec 2 autres missions, donc dans le contexte New Frontier. Et je crois, oui, c'est ça. La date de lancement ne doit pas dépasser le 31 décembre 2018. Donc c'est certainement 2017-2018. Oui, c'est ça. C'est pour de la. C'est un orbite. C'est un. Le G, c'est pour géochimie. Hein, donc c'est un atterrisseur géochimique qui va, pendant 3 heures, faire des mesures de composition chimique et minéralogique des roches à la surface.
Alors, ça veut dire que les Américains, à ce moment-là, devraient concevoir un engin spécifique, alors que les Russes, je dirais, ont l'expérience Venera. Venera, ça a marché, ça peut encore marcher. On est peut-être passé d'une idée d'observer pendant une semaine à la surface de Vénus à 1 heure, mais ces observations, on en a vraiment besoin. Quel est l'objectif numéro 1 de se poser à la surface de Vénus pour y faire quoi?
Eh bien, si on veut caractériser l'histoire de Vénus, l'histoire de son climat, d'une part, on va s'intéresser à des traceurs de l'évolution passée, j'ai parlé des gaz rares dans l'atmosphère, d'autre part, on va s'intéresser au climat actuel et à sa stabilité. On ne sait pas si le climat actuel de Vénus est stable. Autrement dit, on ne sait pas si, par exemple, l'atmosphère de CO2 de 90 bar est en évolution ou non. Est-ce qu'elle diminue, est-ce qu'elle augmente, est-ce qu'elle est stable? On spécule que peut-être elle pourrait être à l'équilibre avec des roches carbonatées à la surface. Il fait très très chaud, donc on peut avoir un équilibre roche-gaz à la surface. On suppose aussi que, par exemple, le SO2 pourrait être à l'équilibre avec des sulfures de fer à la surface. Mais il y a des contradictions. Tout ça ne colle pas très bien. On observe trop de SO2 par rapport à ce qu'on attendrait. Et donc, il faut effectivement comprendre la façon dont interagit la surface avec l'atmosphère. Et c'est cette façon-là, ces caractéristiques, disons, de l'interaction qui vont déterminer la question du climat actuel et de son évolution, de sa stabilité ou non. Et ça, c'est une chose. Et puis, donc, vous voyez, on a l'aspect donc traceur de l'évolution ancienne. On a l'aspect interaction surface-atmosphère qui est très très mal contrainte. On ne sait rien là-dessus. Et cette interaction surface-atmosphère, elle a un lien aussi avec l'interaction entre l'atmosphère et les nuages. Parce que si, par exemple, il y a production de dioxyde de soufre maintenant, en ce moment, via une activité volcanique qu'on n'a pas vue par Magellan, mais qui existe quand même, ou une activité peut-être un petit peu, disons, intrusive, qu'on ne voit pas, eh bien, à ce moment-là, le soufre qui est relâché va être cyclé dans les nuages à travers l'acide sulfurique. Et donc, pour comprendre complètement le système climatique actuel, il faut caractériser l'interface surface-atmosphère-nuage. Voilà, je simplifie à l'extrême. Et puis, par ailleurs, se pose la question, effectivement, du manteau. Et une question très intéressante est de savoir si le manteau est sec, hydraté, oxydé, pas oxydé. Est-ce que le manteau, est-ce qu'on a des carbonates à la surface, etc. Et donc, l'intérêt d'aller se poser à la surface de Vénus, il est double dans ce contexte-là. Premièrement, caractériser l'interaction surface-atmosphère, puisqu'en fait, cette sonde qui va descendre va non seulement se poser, mais auparavant va faire des mesures très précises de la composition chimique de l'atmosphère. Et donc, elle pourra, disons, connaître, et puis ensuite, à la surface, elle va mesurer la minéralogie. Quels sont les minéraux présents? Est-ce qu'on a du fer? Est-ce qu'il est oxydé? Est-ce qu'on a du soufre, etc. Et donc, une fois qu'on aura la composition de l'atmosphère et la composition de la surface, on aura déjà des informations très précieuses sur l'interaction, sa nature et la stabilité climatique. Ensuite, en fonction du site où se pose cette sonde, elle va peut-être, par exemple, si elle se pose sur ce qu'on appelle des tesseras, donc je ne sais pas si c'est prévu, c'est-à-dire des plateaux qui sont supposés être plus anciens, elle pourra caractériser la roche et mesurer aussi son degré d'hydratation, son degré d'oxydation, et peut-être remonter à des contraintes, à des informations sur la composition du manteau. Donc voilà où se trouve l'intérêt, disons, c'est tout ce qui est manteau, surface et interaction surface-atmosphère. Voilà pourquoi faire une sonde à la surface de Vénus.
La brièveté de la mission, en tout cas pour l'atterrisseur, fait penser à Huygens.
Ça fait penser à Huygens. Et alors, néanmoins, même je pense qu'assurer 3 heures de survie à la surface de Vénus, c'est loin d'être trivial. C'est-à-dire, rien que ça, c'est certainement une partie importante du coût de la mission.
Alors, on a peu d'images de la surface de Vénus, simplement celles envoyées par les Vénéras. Est-ce qu'elles ont permis de déjà débroussailler un tout petit peu cette idée de qu'est-ce qu'il y a à la surface pas du tout
quoi. On sait que ce sont des basaltes. On sait que ce sont des basaltes, donc ça ressemble aux basaltes terrestres, donc des laves durcies. On sait que ce sont des basaltes. Alors ensuite, on ne sait pas grand-chose. On n'a pas fait du tout d'analyse minéralogique. On a fait un petit peu d'analyse chimique. On a trouvé du chlore, du soufre, bien entendu, comme dans l'atmosphère. Mais on ne sait à peu près rien de la nature exacte de ces basaltes. Et donc, mesurer, par exemple, des degrés d'hydratation ou d'oxydation, voilà quelque chose qui serait très intéressant. Par ailleurs, ces basaltes, on ne sait pas s'ils contiennent et sous quelle forme, justement, du fer, du soufre, etc. D'où on ne sait quasiment rien, ouais. Sauf que c'est volcanique.
On n'a pas idée des paysages non plus.
Les paysages, on les connaît mal. On a un horizon. De toute façon, l'horizon sur Vénus, c'est à cause de la réfraction, est très limité. On ne voit pas très loin. Il y a l'effet cuvette, donc on ne peut pas voir à une très grande distance.
Qu'est-ce que vous appelez l'effet cuvette?
La réfraction atmosphérique fait que, en fait, l'horizon sur Vénus se redresse. C'est un phénomène optique qui est lié à la très grande densité de l'atmosphère, qui fait que quand un rayon qui provient, qu'on voit arriver horizontalement, disons, quand on regarde l'horizon, en fait, un rayon lumineux qui part du sol à l'oblique, il va avoir tendance à prendre une trajectoire plus horizontale à cause de la réfraction. Et donc, ce qu'on verra à l'horizon, c'est en fait une région beaucoup plus proche.
D'accord.
Voilà, donc il y a cet effet cuvette qui empêche de voir loin.
Des mirages.
Des mirages, oui, c'est ça. Et puis le fait que l'atmosphère est quand même il fait relativement sombre et l'atmosphère est quand même très opaque. Oui. Dans l'infrarouge, pas dans le visible, elle est assez transparente. Oui.
Alors, on parle souvent de planétologie comparée, c'est complexe, hein, parce que dans le système solaire, on dit aussi tous parents, tous différents. Oui. Donc, est-ce qu'on peut comparer Vénus avec un autre corps dans le système solaire de façon valable? Ça, c'est ma première question. Et puis ensuite, est-ce que finalement la découverte d'exoplanètes très proches de leurs étoiles, comme on le suit depuis 1995, est un argument puissant pour le retour d'une exploration d'une planète si proche de son étoile?
Oui, alors tout à fait. Alors tout d'abord, la seule planète à laquelle on puisse comparer Vénus, c'est la Terre, dans le système solaire. Vénus et la Terre se ressemblent énormément sur de nombreux aspects, à tel point qu'on pense même que Vénus et que son atmosphère, l'atmosphère de Vénus, pourrait représenter un état primitif de l'atmosphère de la Terre. Donc il est également très important de comprendre Vénus pour comprendre l'origine, disons, la formation et l'évolution précoce de la Terre. Maintenant, ce que vous dites est très vrai. retourner vers Vénus, c'est quand même retourner, c'est aller visiter un corps qui se trouve du côté Soleil. On a Mars, côté, sur le, disons, vers la périphérie, qui donne des conditions limites du côté des basses températures. Et on a Vénus de l'autre côté. Et la Terre se trouve au milieu dans la zone habitable, entre une Vénus trop chaude et un Mars trop froid. Autrement dit, effectivement, caractériser Vénus correctement, comme on caractérise Mars et comme on connaît bien la Terre, c'est quelque part, c'est compléter un échantillon de trois planètes qu'on voudrait connaître très bien, qu'on pourrait pouvoir comparer, dont on voudrait pouvoir comparer les évolutions. Et à partir du moment où on aura bien compris tout ça, comment évoluer ces trois planètes, il est effectivement très intéressant d'aller, il sera très intéressant d'aller étudier les planètes extrasolaires de type terrestre. Quand on aura trouvé, disons, on en a trouvé une ou deux, déjà qui ressemblent un petit peu à la Terre. Mais quand on aura trouvé des planètes, et surtout qu'on aura mesuré des gaz à effet de serre, tels que H2O, CO2 dans l'atmosphère, ou O3, ou l'ozone, à ce moment-là, effectivement, il sera très intéressant de se référer au cas de Vénus. Je vous donne un exemple que je trouve très intéressant. C'est que le seul scénario qui peut s'expliquer Vénus actuellement, c'est quand même l'échappement de beaucoup d'hydrogène vers l'espace. Et cet hydrogène provenant de H2O, de la photodissociation de H2O, aurait dû laisser derrière lui beaucoup d'oxygène dans l'atmosphère de Vénus. Or, il n'y en a pas. Alors, où est passé l'oxygène? Pour un planétologue, je dirais que c'est quasiment aussi important qu'où est passé l'eau. Qu'est devenu l'oxygène de Vénus? Bon, on ne sait pas, il est peut-être dans le cœur, il est peut-être dans le manteau, il est peut-être quelque part. Mais si l'atmosphère de Vénus avait gardé une partie de son oxygène, Vénus représenterait le cas d'une planète avec beaucoup d'oxygène abiotique, et donc pourrait être un faux positif de planète extrasolaire hébergeant la vie.
Bon, il vous reste du travail, hein?
Beaucoup. Ah oui. Mais ça, on a, voilà.
Et donc, prochaine décision pour l'émission, en fait
Alors, prochaine décision, donc nous allons soumettre le projet de ballon de Vénus probablement à la fin de l'année, début de l'année prochaine.
2010.
Ça dépend, début 2011, donc. Ça dépendra du calendrier de l'appel d'offres de l'ESA pour un départ vers Vénus qui ne devrait pas intervenir avant 2022. Donc, nous aurons... peut-être Sage en 2018, peut-être un ballon en 2022, et puis au-delà, vers 2030, une grosse mission internationale de type flagship américaine qui pourrait emporter plusieurs plateformes, ballons, atterrisseurs, et combiner toutes ces différents types de plateformes.
Merci, Eric Chasfia, d'être venu nous parler aussi clairement de Vénus. Puis je dirais bonne suite, hein, parce que pour le compte,
là, je vous remercie,
il y a beaucoup de choses à faire. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment pour un prochain épisode.